pourquoi j'écris? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça.
Qu'est-ce à dire? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes au Café Fluxus pour cette quatrième émission du Vent dans les pages sur Studio Zef. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis en compagnie de mes fidèles lectrices, Anne et Catherine. Bonjour mesdames.
Bonjour Véronique.
Catherine, on commence par toi.
D'accord.
Tu veux bien démarrer?
Et puis pour te contredire, je vais parler d'aucun des deux dont tu as parlé. J'aime bien ça. Hein. Mais je vais parler du dernier roman de Véronique Olmy, donc qui s'appelle Bakita, qui est sorti à la rentrée, comme on dit, c'est élégant de sortir à la rentrée, littéraire, donc à l'automne 2017. Alors, Véronique Olmy, bon, peut-être vous la connaissez quand même, parce qu'elle a quand même déjà un petit passé littéraire important. Alors, elle a partagé sa vie, elle a deux carrières, à la fois l'art dramatique et la littérature. Donc, elle a été assistante à la mise en scène, metteur en scène, comédienne, et elle a écrit évidemment des textes de théâtre. Et parallèlement, elle a écrit des romans. Son premier roman, Bord de mer, a été publié. Oh là, ça va serrer là. Elle a été publiée en 2001. Donc, aujourd'hui, je vais parler de son dernier roman qui est Bakita, qui est très particulier puisque en fait ça pourrait être une biographie, c'est une histoire vraie, une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une jeune Soudanaise qui a été enlevée à 7 ans et qui est devenue esclave et qui a eu une vie terrible, atroce. Et pourquoi Véronique Olmy s'est intéressée à cette femme? En fait, pour la petite histoire, elle a une maison en Touraine et dans une église près de chez elle, elle a découvert un portrait de cette sainte, puisque cette sainte, voilà, cette femme est devenue sainte, incroyable, et la patronne, si je peux dire, de cette église. Et elle a tellement été sidérée par cette histoire dont elle n'avait jamais entendu parler, qu'elle a consacré 2 ans de sa vie à découvrir qui était cette femme extraordinaire. Et elle a préféré écrire un roman pour avoir la liberté de parler de ce personnage. Alors, pour vous mettre tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous lire le début de son roman. Elle ne sait pas comment elle s'appelle. Elle ne sait pas en quelle langue sont ses rêves. Elle se souvient de mots en arabe, en turc, en italien, et elle parle quelques dialectes. Plusieurs viennent du Soudan et un autre de Vénétie. Les gens disent un mélange. Elle parle un mélange et on la comprend mal. On doit tout redire avec d'autres mots qu'elle ne connaît pas. Elle lit avec une lenteur passionnée l'italien et elle signe d'une écriture tremblante, presque enfantine. Elle connaît 3 prières en latin, des chants religieux qu'elle chante d'une voix basse et forte. On lui a demandé souvent de raconter sa vie et elle l'a racontée encore et encore depuis le début. C'est le début qui les intéressait, si terrible. Avec son mélange, elle leur a raconté et c'est comme ça que sa mémoire est revenue. En disant dans l'ordre chronologique ce qui était si lointain et si douloureux. Storia meravigliosa. C'est le titre de la brochure sur sa vie. Un feuilleton dans le journal et plus tard un livre. Elle ne l'a jamais lu. Sa vie à eux racontée. Elle en a été fière et honteuse. Elle a craint les réactions et elle a aimé qu'on l'aime pour cette histoire, avec ce qu'elle a osé et ce qu'elle a tu, qu'il n'aurait pas voulu entendre, qu'il n'aurait pas compris et qu'elle n'a de toute façon jamais dit à personne. Une histoire merveilleuse. Pour ce récit, sa mémoire est revenue. Mais son nom, elle ne l'a jamais retrouvé. Elle n'a jamais su comment elle s'appelait. Mais le plus important n'est pas là, car qui elle était enfant, quand elle portait le nom donné par son père, elle ne l'a pas oublié. Elle garde en elle comme un hommage à l'enfance, la petite qu'elle fut. Cet enfant qui aurait dû mourir dans l'esclavage a survécu. Cet enfant était et reste ce que personne n'a réussi à lui prendre. voilà, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, justement, elle fait allusion à son histoire qu'elle a racontée, qu'on lui a demandée. En fait, oui, elle a raconté son histoire. Quelqu'un a pris note de son histoire et c'est devenu un livre. Donc, ce livre existe vraiment, Storia Marie, c'est ça, je voulais donner le titre tout à l'heure, l'histoire merveilleuse. Donc, ça existe. Alors, que dire de cet enfant ? Eh bien, c'est une petite fille qui a commencé sa vie heureuse. Elle est née au Darfour et elle vivait avec sa famille, une vie heureuse, même si ce n'est pas une vie dans l'opulence, mais dans le bonheur. Mais dans cette région, on enlevait souvent les enfants, les femmes, à tout ce qui pouvait se monnayer. Les hommes, les jeunes, pour travailler, les femmes, on imagine pourquoi, soit pour la domesticité ou le plaisir. Donc, elle avait déjà vécu des drames avant que ça lui arrive à elle-même. Je vais vous lire un petit passage. Elle a 5 ans environ, et c'est la fin d'un monde. Cet après-midi-là porte une lumière qui n'est jamais revenue, une joie tranquille qui vibre et qu'on ne remarque pas. On ne sait pas qu'elle est là. On vit à l'intérieur de cette joie comme des oiseaux affairés, et cet après-midi-là, dans son village, les petits jouent à l'ombre du grand baobab, et l'arbre est comme une personne de confiance. Il est le centre et l'ancêtre, l'ombre et le repère. Les vieux dorment à 7 heures du jour. Les hommes ramassent les pastèques dans les champs. À la sortie du village, les femmes battent le sorgho. C'est la musique tranquille d'un village paisible qui cultive ses champs. Une image de paradis perdu qu'elle gardera pour se persuader que ça a existé. Cet après-midi-là, les ravisseurs étaient arrivés au galop avec le feu, les fusils, les chaînes, les fourches et les chevaux. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, les jeunes surtout. Les garçons pour les armées, les filles pour le plaisir et la domesticité. Ils ont fait vite, ils ont l'habitude. Ils connaissaient le village, renseignés par des collaborateurs qui leur avaient indiqué le chemin et qui étaient peut-être du village voisin. Ils savaient ce qu'ils trouveraient. Les hommes et les femmes d'Olgosa sont arrivés trop tard. Leurs garçons et leurs filles ont tenté de fuir, de se cacher, mais ils ont été pris, blessés, tués, et leurs voix se sont perdues dans le grand souffle des flammes. Il y a des corps démembrés, brûlés, agonisants et gémissants dans de grandes flaques de sang. Il y a des chèvres errantes, des chiens qui pleurent et des oiseaux muets. Il y a des cases défoncées et des fourches à esclaves brisées qui signent le passage des razzieurs. Le feu court encore de point en point. Il est la signature des négriers. Donc déjà, avant même que ça lui arrive, voilà ce qui est arrivé à son village. Donc sa sœur a déjà été enlevée comme ça.
Donc ça se passe au...
Alors elle est née en 1869, ouais. Je crois, j'ai 69-70, ouais. Voilà.
Alors j'ai lu aussi que Bakita, ça voulait dire chanceuse.
Alors voilà, c'est un petit peu l'horreur, c'est ce qu'on voit un peu plus tard, c'est que... Elle lui dit dès le début, elle a perdu son nom. De toute sa vie, elle n'a jamais retrouvé son nom d'enfant. Mais par mauvais humour, on peut dire, ses ravisseurs l'ont appelée Bakita, qui veut dire la chanceuse. Donc la provocation est quand même
oui,
de
elle
taille.
Elle est restée en vie alors cynisme. Que tout le monde a été assassiné.
Non, non, parce qu'après, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Oui, non, mais dès qu'ils l'ont enlevée, ils l'ont appelée Bakita.
D'accord.
Voilà. Alors c'est intéressant aussi de voir le style de Véronique Olmy, ses phrases très courtes. Très percutante, très efficace. C'est pas des grandes phrases, des grandes envolées lyriques. Hein. C'est très efficace. Oui, c'est très c'est vraiment des phrases courtes. Mmh. Un matin, un des ravisseurs ouvre la porte. Là, elle a été enlevée. Un peu plus tard, il la traîne dehors et la lumière est comme un couteau. Il y a des voix, il y a des hommes, un brouhaha compact dans une langue qui n'est pas celle de sa tribu. Tout de suite, elle comprend que ceux qui sont là ne sont pas ceux du village. La déception est violente comme le soleil. Elle sent les mains des hommes sur elle et elle ouvre les yeux, des aiguilles blanches qui dansent et rien d'autre. L'un des hommes soulève ses paupières et il dit qu'elle est malade. Alors le ravisseur prend son menton dans sa main, il la force à ouvrir la bouche et à montrer ses dents. On lui lance un bâton pour qu'elle court et le ramène. Au début, elle ne comprend pas, elle ne va pas le chercher. On la gifle et on recommence, elle court. L'homme crache quand elle tombe, ses jambes ne la portent plus. Elle tient sur 2 bouts de bois tordus. Elle ne comprend pas ce qu'elle doit faire. Elle est affolée. Elle ne sait pas ce qu'ils veulent. On l'inspecte partout. Ça lui fait mal et elle ne comprend pas pourquoi toujours on veut lui faire mal. Elle pleure de cette incompréhension et elle pleure de découragement. Alors le ravisseur s'énerve. Il montre au marchand les muscles de la petite, les mollets, les bras, et surtout il répète qu'elle est belle. Jamila, c'est le mot qui la désigne, Jamila. Les palabres commencent, les disputes et les rires pleins de morgue. Ses yeux s'habituent à la lumière. Elle voit qu'il y a des hommes et des femmes derrière eux, un petit groupe qui attend. Elle ne sait pas quoi. Elle écoute la tractation dans une langue qu'elle ne comprend pas. Est-ce qu'elle va retourner dans le trou ? Parce qu'il la garde dans un trou. Un instant, elle espère que ces hommes sont envoyés par son père, puis elle voit l'argent passer de la main de l'homme à celle du ravisseur. Elle voit nettement les pièces. Elle ne veut pas retourner dans le trou, rester avec les ravisseurs. Elle préfère partir avec ces gens. Elle veut partir avec ces gens. Elle écoute et elle comprend quelques mots qui disent qu'elle a à peu près 7 ans, qui disent qu'elle s'appelle Bakita.
Voilà, un peu livre épouvantable.
Alors c'est un livre. Alors surtout, bah, il faut quand même, parce que j'ai voulu montrer la situation dramatique, mais c'est vraiment un livre d'espérance. C'est curieux parce que les deux livres que j'ai choisis sont des livres de voyage, mais pas du tout dans le même au même niveau. C'est cette longue pérégrination, alors qui paraît longue, mais enfin elle a commencé à 7 ans. Hein, elle a été enlevée à 7 ans. Toutes les horreurs qu'elle va traverser, et quand on voit ce qu'elle va devenir, qu'elle va passer après sa vie à aider les pauvres, les malheureux, les perdus. Enfin, dire, elle est la bonté même. Mmh. Et même plus tard, quand on l'interrogera, est-ce que vous avez envie de la mort de ceux qui vous ont enlevé ? Est-ce que non ? Peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Donc, elle est quand même.
C'est en cela, en cette résilience, comme on dit aujourd'hui, que tu dis que c'est pas, comment dire, qu'elle a pas de la haine
pas du tout. Voilà, elle ose même dire à la fin de sa vie, elle a dit, mais si ça ne m'était pas arrivé, je n'aurais jamais rencontré le Christ, etc. Donc elle va jusque là. Je peux un petit peu continuer, j'espère.
Mais oui.
Alors.
Je t'en prie.
Un dernier passage, je vais vous lire quand même, parce que. Tout dernier passage, voilà. Alors, il faut savoir qu'elle a été. Donc, elle a eu plusieurs maîtres, plus ou moins cruels, mais en général plutôt cruels. Donc, elle a été martyrisée, violée, battue, scarifiée, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Elle a été le jouet que ça peut être d'autres enfants, mais qui s'en servent comme d'un jouet, d'une poupée, donc ils en font ce qu'ils veulent, le jouet sexuel du grand frère. Enfin, elle a tout connu. Et elle passe comme ça de maître en maître. Et elle arrive au bout d'un moment. Elle reste là. Alors, je vous ai passé un passage, je ne vous l'ai pas lu, sur les scarifications, parce que je crois que là, ça vous aurait encore plus retourné. Elle reste là, debout, inutile et pétrifiée. Elle calcule. Si le général ne la garde pas, si elle est achetée, ce sera son 5e maître. C'est bien ça. Elle réfléchit. Elle revoit les deux ravisseurs près du bananier. Elle revoit les longues marches, les centres de tri, sa fuite avec Bina. Elle revoit le berger et le serpent dans la gueule de son chien. Elle revoit Samir et les petites maîtresses. Elle revoit les couteaux, les fouets, les défaites. Elle était si petite quand ça a commencé et maintenant elle connaît beaucoup de choses et elle ne connaît rien. Elle a désappris ses coutumes et ses croyances. Elle ne saurait plus mener un troupeau à la rivière, battre le sorgho, chanter dans son dialecte. Et elle se demande si ma mère prononçait mon nom, est-ce que je le reconnaîtrais ? Elle se pose cette question et soudain elle entend qu'on l'appelle. Bakita, Bakita, approche. Elle est achetée pour la 5e fois. Achetée par un homme qui s'appelle Callisto Legnani, consul italien à Khartoum. Et cet homme va changer le cours de sa vie. Je ne sais plus si c'est. Elle a à peine 15 ans, enfin, 13 ans.
Oui, c'est toute son adolescence qu'elle a passée. Voilà.
Et donc, cet Italien l'achète, puisque. À un moment, il va repartir en Italie et elle va tout faire pour qu'il l'emmène. Mmh. Donc il l'emmène avec elle et voilà. Et c'est à partir de là qu'elle va s'en sortir. Et c'est toute son histoire en Italie. Des gens l'ont pris en affection, essaient de l'éduquer. Donc il l'envoie dans une sorte d'école couvent et c'est là qu'elle découvre. Bon, elle apprend à lire. Peut-être pas très bien, mais elle apprend à lire, à écrire. Et elle découvre la foi chrétienne. Mmh. Et là, sa vie est transformée. Voilà. Donc, bon, j'ai choisi des passages qui peuvent peut-être vous effrayer, mais c'est aussi une réalité. C'est pas un livre à l'eau de rose, c'est une réalité, c'est sur l'esclavage. D'accord, ça se passe au 19e, même si elle est morte au 20e. Parce qu'elle a vécu longtemps. Elle a vécu, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a vécu plus de 80 ans, donc c'est assez extraordinaire. Et c'est la première femme africaine noire canonisée. Donc, et c'est récent, hein, c'est Jean-Paul II, je crois, qui l'a canonisé. Donc, oui, oui, c'est pas très loin. Mais il faut aussi se dire que l'esclavage existe toujours de nos jours.
Oui,
tout à fait. Ce n'est pas de la littérature.
On en revient à l'histoire du lion personne. Oui. L'esclavage existe toujours de noir à noir et de blanc à noir.
Voilà. Donc pour répondre, c'est 13 ans. Elle a été vendue au consul. Ouais. Voilà. Donc de 7 à 13 ans, elle a vécu plusieurs vies
et plusieurs horreurs.
C'est horrible. Voilà. Ouais. Mais ça apprend aussi sur l'histoire de ces régions au 19e, sur les présences italiennes, etc. Sur les guerres, car il y avait beaucoup de guerres, sur les échanges. Et même en Italie, où elle arrive en Italie, et elle a un procès pour qu'on arrive à dire qu'elle n'est plus esclave.
Oui.
Ce n'est pas naturel. Il y a toute une démarche administrative pour la libérer. Donc c'est quand même une histoire incroyable. Et elle est morte en 1947, donc c'est pas si vieux que ça, en fait. Même si ça paraît noir, c'est un roman qui se lit d'une traite. Je veux dire, il y a un tel espoir dans ce roman, quelles que soient ses croyances ou autres, c'est la démarche humaine, il y a un tel espoir qu'on est porté par cette histoire. Parce que de sa part, il n'y a jamais de haine, c'est extraordinaire. Et puis elle rencontre des gens qui l'ont sauvée aussi, c'est important à dire. Donc le roman s'appelle Bakita, B-A-K-H-I-T-A, écrit par Véronique Olmy et a été publié chez Albin Michel.
Alors Catherine, tu nous emmènes où en
Alors nous allons encore voyager. Ouais, ouais. Le voyage sera moins cruel et plus contemporain. Voilà. J'avais envie de vous parler d'un écrivain protéiforme, multiface, enfin tout ce qu'on peut imaginer.
Et stégophile. Et
stégophile, oui, stégophile. Stégophile. Voilà, exactement.
Je suis contente de le placer.
Ça fait chic, hein, ça peut être un jeu.
Ça veut dire quoi? Alors, je viens de l'apprendre. Voilà. C'est apparemment
Alors, il y a un autre mot pour vous mettre sur la piste. Voilà. Un stégophile, ça peut être un toiturophile.
Ouais.
Ah, ouais, voilà. Ouais. Il adore grimper sur les toits.
Oui. C'est comme ça qu'il est tombé.
C'est comme ça qu'il est tombé. Parce que c'est bien de grimper sur les toits, mais il vaut mieux être à jeun. Voilà.
C'est ça.
La morale de l'histoire.
Voilà.
Voilà. Donc, je vais vous parler de Sylvain Tesson, qui a écrit à la fois des récits et à la fois de la fiction, et plus particulièrement des nouvelles. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui ne lui ressemble pas, en fait. Parce que depuis qu'il est tout jeune, parce que je crois qu'il a commencé à parcourir le monde, il devait avoir 18 ans, quelque chose comme ça.
À peine, hein.
Ouais. Il est parti, il a traversé à vélo le désert central d'Islande. Après, il avait à peu près une vingtaine d'années, il a fait le tour du monde à bicyclette avec un camarade de lycée, je crois. Voilà un peu le personnage. Après, il a traversé l'Himalaya à pied, 5000 km en 5 mois. Voilà. Donc, c'est le personnage qui parcourt le monde entier à pied, à vélo, à mobylette. Puisque son dernier ouvrage parle de ses vadrouilles à mobylette.
Ouais.
Donc, par toutes les façons possibles. Et puis, il a fallu qu'il lui arrive un petit pépin dans la vie pour qu'il découvre qu'il n'avait jamais parcouru la France. Il a grimpé sur les toits, comme il adore le faire. Donc, il est stégophile, comme il dit, ou toiturophile, c'est plus facile de comprendre ainsi. Sauf que le jour où il l'a fait, ce jour-là, il avait peut-être abusé de...
Peut-être. Rien n'est sûr.
Rien n'est sûr. Mais disons qu'il a perdu l'équilibre en haut de son toit. Il est tombé. Il n'est pas mort, bien sûr, puisqu'il écrit toujours. Il n'est pas entièrement paralysé. La preuve, il a pu traverser la France à pied, mais il a été énormément abîmé et il a beaucoup souffert. Et donc, il s'était dit que s'il en sortait, il traverserait la France. L'année avait été rude. Longtemps, les dieux avaient favorisé la famine, nous avaient baignés de leur douceur. Peut-être se penchent-ils sur certains d'entre nous comme les fées des contes. Puis leur sourire se crispe en grimaces. Nous ne savions rien de ces choses, mais nous goûtions cette amabilité du sort avec une désinvolture énergique. Elle nous affranchissait de la moindre gratitude, mais nous craignait à une épuisante légèreté. La vie ressemblait à un tableau de Bonnard. Il y avait du soleil sur les vestes blanches, des compotiers sur les nappes, des fenêtres ouvertes sur un verger où passaient des enfants. Dehors, les pommiers bruissaient, le décor idéal pour un bon coup de massue. Cela n'avait pas tardé. Mes sœurs, mes neveux, tout le monde avait été atteint de l'un de ces maux qui s'infiltrent par les remparts dans les fables médiévales. Une ombre rampe dans les ruelles, atteint le cœur de la ville, gagne le donjon, la peste avançait. Ma mère était morte comme elle avait vécu, faisant faux bond. Et moi, pris de boisson, je m'étais cassé la gueule d'un toit où je faisais le pitre. J'étais tombée du rebord de la nuit, m'étais écrasée sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. J'étais tombée sur un tas d'os. Je regretterai longtemps cette chute parce que je disposais jusque-là d'une machine physique qui m'autorisait à vivre en surchauffe. Pour moi, une noble existence ressemblait aux écrans de contrôle des camions sibériens. Tous les voyants d'alerte sont au rouge, mais la machine taille sa route. Et le moindre Cassandre à gueule d'idiot qui agite les bras en travers de la piste pour annoncer la catastrophe est écrasé menu. La grande santé, elle menait au désastre. J'avais pris 50 ans en 8 mètres. Voilà. Alors, vous remarquerez, parce que ce n'est qu'un récit, si je puis me permettre, mais quelle écriture !
Oui.
C'est-à-dire, il a quand même l'art de vous offrir toutes les images de ce qui vit et de ce qui l'entoure. Donc,
oui,
il annonce
je,
bien.
Je trouve que c'est très réducteur. Il a pris 50 ans en 8 mètres.
C'est superbe.
C'est une définition parfaite.
Voilà. Voilà. Ouais. Il était trop gâté et il a trop usé de la machine et la machine l'a rappelé à l'ordre. Donc, il a évidemment vécu des longs moments de souffrance. Ils ont essayé de le récupérer comme ils ont pu. D'ailleurs, il dit beaucoup de bien de la médecine française en disant qu'on le traite vraiment bien parce que c'est lui qui a fait l'idiot et on s'occupe quand même de lui comme si de rien n'était. Et évidemment, une fois après des mois et des mois de remise en état, on lui dit qu'il faut aller dans un centre de rééducation et aller marcher sur les tapis roulants, etc. etc. Et il s'est dit que la meilleure éducation, c'est de marcher. Et donc, il a fui les centres de rééducation et tous ces lieux. Donc, il a décidé de partir à l'aventure et il avait fait ce vœu. C'est-à-dire, il s'est dit, si je m'en sors, si j'arrive encore à marcher, je traverserai la France à pied. Alors son parcours, d'ailleurs au début du livre on le voit, il part donc de la montagne, de la frontière italienne vers le Val d'Aoste, hein, enfin oui à la frontière, dans le Mercantour exactement, et il traverse jusqu'au bout du Cotentin. Donc il se fait vraiment toute la France.
Donc,
au
début du livre
voilà. En travers parce que évidemment vous allez comprendre pourquoi son roman s'appelle Sur les chemins noirs. Il n'a pas envie de prendre les grandes routes.
D'accord.
C'est à la fois une sorte de résurrection pour lui, une redécouverte. C'est aussi... un symbole, c'est le message, un peu une sorte de réaction contre ce monde d'écran où tout est calculé, tout est précis, tout est organisé, où on peut vous repérer à tout moment. Enfin, c'est pas une vie. Alors que lui, il a décidé d'écouter, de prendre son temps, d'être au rythme de la vie, de la terre, de ses jambes, des gens qu'il rencontre, des bêtes qu'il rencontre. Voilà. Donc c'est sa démarche et je pense que c'est une thérapeutique très intéressante. Voilà, donc sur les chemins noirs, quand vous regardez une carte, il y a toujours des petits traits noirs. Ce sont les petits chemins qu'on prend rarement.
Les fameux chemins vicinaux.
Voilà, vicinaux et même moins. Parce que c'est...
Oui, même moins.
Et en plus, il dit bien, c'est pas les GR et tout ça.
Non.
Alors, il ne critique pas du tout ça, mais c'est pas ça qu'il veut. Non. C'est vraiment les chemins qu'on a oubliés. Voilà. C'est les chemins des gens qui mènent leurs bêtes dans la montagne. C'est le chemin des bêtes elles-mêmes. Enfin, c'est ça qui l'intéressait, vraiment.
C'est pas surprenant, hein, vu le personnage.
Voilà, même quand il visite la France,
il faut pas que ce soit.
Il sait nous faire découvrir ce que nous ne voyons pas toujours.
C'est marrant, tous ces grands voyageurs qui ne connaissent pas forcément ce qu'il y a à côté de chez eux. Ils connaissent le bout du monde.
Bah, on dit toujours, on verra ça plus tard.
Voilà.
Et là, il a compris qu'il fallait peut-être voir ça aussi maintenant. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est allé dans tous les coins du monde.
Ça.
Je veux dire, la Sibérie n'a pas de secret pour lui, l'Himalaya, enfin, c'est fou. Et c'est vrai que la France, ça paraît bien petit à côté du monde qu'il avait envie de découvrir. Donc... Et le dernier, c'est quelques lignes, mais je me suis dit que c'était quand même la moindre des choses. C'est quand il traverse la Loire.
Ah
même
bah.
Il ne la traverse pas à Blois, mais je vais quand même son allusion à la Loire, parce que je me dis quand même, il fallait bien qu'il la traverse un moment. Hein. Donc c'est un tout petit passage. Une guirlande de montgolfières était accrochée dans le ciel au nord-ouest, au-dessus de la Loire. Ça, ça vous parle tout de suite.
Ah oui.
Combien de temps restais-je sur le pont de Mont-Louis, hypnotisé par les remous de la Loire ? Ils écumaient entre les piles de pierres, le courant invité aux aventures. Et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire, comme disait Peggy, appelaient à sauter. Cela, il ne le disait pas. L'eau venue du massif Auvergnat se diluerait dans l'Atlantique. Je passais le pont en longeant les rails du chemin de fer. Sur la rive droite, le plateau de Vouvray portait les vignes et j'allais retrouver là un paysage amical. En Provence, le vin était le sang de la roche frappée de soleil. Ici, une lymphe de sable fécondée par les brumes. Les flancs du plateau tombaient en courtes falaises percées de caves. C'était une alchimie qui me ravissait, celle de la vigne et du vide. Le vin m'était interdit, mais je pouvais encore m'enivrer du vide.
C'est joli.
Alors, à découvrir, hein, c'est ouais, une vraie balade.
Une belle écriture.
Et c'est une très belle écriture. Alors, ça s'appelle donc « Sur les chemins noirs », l'auteur Sylvain Tesson, et ça a été publié chez Gallimard automne 2016.
Oui, c'est parce 2016,
qu'il en a ressorti
ouais.
un ouais, en, ouais, à l'automne 2017.
Ouais, tout à fait.
Voilà.
Merci beaucoup, Catherine. Eh bien, ça va être à votre tour, Anne.
Oui.
Alors, vous allez nous parler de...
Alors, moi, je vais vous parler de Romain Gary.
Voilà.
Alors, Romain Gary, ce n'est pas du tout le même style, mais c'est
Il a pas mal voyagé aussi. Hein.
Oui, et puis c'est un personnage flamboyant. Ouais. C'est... Voilà. Alors, je voudrais vous parler d'une biographie de Dominique Bonnat, qui raconte la vie de cet homme qui est né... en 1914 à Moscou, qui était le fils de juif russe de très petite qualité, puisque le père était cantonnier. D'ailleurs, il a été un père inexistant. Et la mère était une petite actrice de troupe itinérante. Et 1914, c'est l'arrivée de la guerre et... pas beaucoup d'emplois. Alors, les premières années de Romain Gary, qui à l'époque s'appelle Roman Kassef, les premières années se passent dans les coulisses minables de théâtre de glacé ou dans les usines soviétiques où sa mère va déclamer des poèmes sur ordre. Et puis, il fuit la guerre, donc ils s'en vont... dans les forêts polonaises, jusqu'à Vilnius, ce qui est Vilnius maintenant, qui à l'époque s'appelait Vilna, et ensuite à Varsovie. Toute son éducation à ce moment-là a été une course contre la pauvreté et la misère. Sa mère a fait toutes sortes de petits boulots pour pouvoir nourrir son fils et surtout l'éduquer, parce qu'elle avait une vision de son fils absolument extraordinaire. Elle lui répétait à longueur de temps « Tu seras ambassadeur de France, tu seras prix Nobel ». Et dès qu'il prenait un crayon et un bout de papier, elle lui disait « Tu seras Victor Hugo, peut-être même D'Annunzio ». Et naturellement, elle a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Donc, ils sont allés à Varsovie après Vilnius en se disant que peut-être la vie serait un peu plus facile. Et là, ce sont les persécutions antisémites qui ont commencé, des humiliations, des agressions verbales, etc. Donc, Madame Kassef a décidé de demander le visa pour pouvoir partir en France, puisque c'était le but ultime, la France. Et Romain est arrivé, il avait 13 ans. Alors, il a suivi les obligations que lui imposait sa mère. Il a toujours été premier en classe. Il est arrivé en cinquième. Il parlait à peine, il parlait un français La Fontaine ou Montaigne, mais pas tellement du courant. Et 2 ans après, il était premier prix de composition française. Donc, il fait des études brillantes au lycée de Nice. Ensuite, il monte à Paris pour faire une licence en droit, puisque dans l'esprit de sa mère, il devait être diplomate, secrétaire d'ambassade, etc. Et en 1935, c'est l'année faste, il est naturalisé français. Et sa première nouvelle paraît dans Gringoire, un grand journal parisien. Et il est félicité par Joseph Kessel. La guerre arrive, il devance l'appel... du général de Gaulle, puisqu'il part de France le 15 juin Et il n'arrive que 2 mois plus tard au Maroc, après des tribulations sans fin, des avions ratés. Il fait une guerre magnifique dans les forces françaises libres. Et il est fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Et en même temps, pendant qu'il attendait le soir les veillées nocturnes avant de démarrer son avion, il écrit. Et il écrit son premier roman qui est « Éducation européenne ». Et le théâtre de ce livre, ce sont les forêts polonaises, puisque c'est l'histoire de la résistance polonaise pendant les années 42-43. Et il nourrit tout le fond de son livre avec les errances de son enfance. Et là, il se dit, voilà, je suis arrivé, je suis auteur à succès, je suis compagnon de la Libération, chevalier de la Légion d'honneur, je vais venir montrer à ma mère et elle va être ivre de fierté. Nous sommes en 45 et il apprend que sa mère est morte depuis 1942, elle est morte d'un cancer et elle n'a rien su de la réussite de son fils. Grâce à André Malraux, il rentre dans la carrière, il devient... sous-dessous secrétaire d'ambassade, vraiment le rat de l'échelle. Et il va faire toute sa carrière comme ça, tout en écrivant. Parce qu'en fait, le but, c'est toujours d'écrire. Et son second livre est un livre absolument magnifique qui se passe en Afrique, qui combat la destruction des éléphants et de la faune africaine. Et ce livre absolument superbe qu'il a basé sur son voyage en Afrique pendant qu'il était à l'armée, lui obtient le prix Goncourt. Donc il est devenu un auteur à succès. Comme il a eu le prix Goncourt et qu'il est devenu un personnage connu, tout d'un coup on lui trouve un poste intéressant en diplomatie. Donc il devient consul général à Los Angeles. C'est un poste doré sur tranche, il est ami avec tous les milliardaires du cru, il va dans la piscine de l'un, au restaurant avec l'autre, tout un chacun vient lui demander conseil, bref, il s'épanouit, mais il continue à écrire et il va écrire un livre magnifique qui s'appelle Lady L, qui était le préféré du général de Gaulle, lequel lui répond, lui envoie un mot en lui disant: je vois porter dans ce texte un magnifique talent, un prodige d'humour et de désinvolture. Alors, je trouve que l'analyse du général est courte mais bonne, parce qu'en fait, Romain Gary a toujours été à l'écoute des événements du monde. Les musées ne l'intéressent pas. C'est tout ce qui est... il considère que c'est de la poussière, ça n'a aucun intérêt. Voilà, tout ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Alors, il est persuadé, bien entendu, que la cruauté humaine est une réalité, que l'homme n'est pas forcément bon, mais qu'il peut être sauvé par des valeurs humanistes telles que l'amour des autres, la tendresse, la musique. Donc, on retrouve ce genre de commentaires dans la plupart de ces livres. Un autre exemple, Les Enchanteurs, qui raconte, qui le ramène dans la Russie que lui racontait sa mère et qui raconte l'histoire d'une dynastie de magiciens vénitiens. Alors, ça n'a pas de date, c'est quelque chose qui se passe dans les terres et en même temps, alors vous vous trouvez au 16e, au 20e, enfin peu importe. Et c'est une vision de la Russie qui, naturellement, n'a rien à voir avec la réalité soviétique, hein, je précise. Le dernier roman qu'écrit Romain Gary s'appelle « Les cerfs-volants ». Et « Les cerfs-volants », c'est pareil, c'est un manifeste pacifiste et qu'il dédiera aux compagnons de la libération. Parce que, curieusement, il n'a jamais voulu prendre parti pour quoi que ce soit, ni à droite, ni à gauche, ni quoi que ce soit. Mais il a toujours participé aux réunions des compagnons de la libération. Ce sont ses compagnons de combat. C'est un éternel angoissé, Romain Gary, persuadé que la mort est au-dessus de sa tête, une épée de Damoclès, après la mort de sa femme dans des conditions douteuses.
Sa femme qui était donc l'actrice.
Voilà, sa femme, je précise, c'était l'actrice Jean Seberg, qui a été retrouvée morte dans une rue du 16e arrondissement de Paris. avec 7 degrés 8 de boisson,
taux d'alcoolémie,
de taux d'alcoolémie. 7, alors qu'à 4, on est dans le coma, n'est-ce pas? J'ai dit quoi? 7 grammes.
Oui.
Voilà, excusez-moi. Et donc à 4, on est dans le coma, c'est un coma éthylique. Donc là, on la retrouve, il n'y a pas de bouteille dans la voiture, il n'y a rien, on l'a simplement déposée, elle est saoule, enfin bon, c'est tout ce qu'il y a de plus douteux. Il est dévasté par la mort de cette femme dont il était divorcé, mais qu'il aimait toujours, et il se suicide en 80, un an après. Je voudrais vous lire ce qu'en a dit Jean d'Ormesson, qui est allé assister aux obsèques. Et les obsèques ont eu lieu aux Invalides, puisqu'il était compagnon de la Libération. Il a été veillé. Il n'y avait pas d'office religieux, mais c'était une veillée. Et les compagnons de la Libération étaient tous là pour le veiller. Et le lendemain, dans le Figaro, Jean d'Ormesson a dit « Il y avait beaucoup d'ombre hier. Le général de Gaulle qui l'avait décoré. Ses anciens compagnons qui ne sont pas revenus. Les aventuriers qui peuplent ses ouvrages. » Il y avait surtout sa mère, dont les mots d'avance avaient tracé son destin. Alors Dominique Bonnard a bien rendu cette mélancolie permanente et ce pessimisme de Romain Gary, de même que son espoir dans les valeurs de l'homme. Elle montre aussi très bien comment l'auteur a nourri son imaginaire de tous ses voyages et de tout ce qu'il avait vécu pendant l'enfance. Il a toujours essayé de montrer que la petitesse et la mesquinerie ne gagnerait pas. C'est une biographie magnifique, je vous le recommande. Elle est écrite par Dominique Bonnat. On la trouve aux éditions Folio. Et puis quand vous aurez lu cette biographie, lisez tout Romain Gary.
Ah oui.
Et commencez par La promesse de l'aube. Et alors dans La promesse de l'aube, je voudrais vous lire deux passages. Alors le premier, ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de 4e au lycée de Nice et ma mère avait à l'hôtel Negresco une de ses vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche. Toute la journée, elle guettait des clients éventuels, fumant nerveusement d'innombrables gauloises, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà, seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements et le beefsteak de midi. Ce fameux beefsteak qu'elle plaçait chaque matin, chaque midi devant moi, dans l'assiette, un peu solennellement, comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger avec cet air apaisé des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement. Malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain, dans un éclair, toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Je demeurai là un moment, immobile, pétrifié, regardant avec horreur la poêle mal cachée sous la serviette et le sourire inquiet, coupable de ma mère, puis j'éclatais en sanglots et je m'enfuis. L'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte et à mon impuissance me passa par la tête. Mais presque aussitôt, une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour au pied de ma mère, heureux, juste, digne d'elle, enfin me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin. Alors ça, c'est le premier passage. Le second est nettement plus picaresque. Alors, Madame Cassef, à cette époque-là, a réussi à se faire nommer gérante d'un hôtel, l'hôtel Mermont, où elle va vivre jusqu'à la fin de ses jours. Et elle tient toute seule cet hôtel qui a 3 ou 4 étages. Elle fait les chambres, elle cherche la clientèle, elle les nourrit, enfin bon. Ma mère se levait à 6 heures du matin. fumait 3 ou 4 cigarettes, buvait une tasse de thé, s'habillait, prenait sa canne et se rendait au marché de la Buffa où elle régnait incontestablement. Le marché de la Buffa, plus petit que celui de la vieille ville où allaient s'approvisionner les grands palaces, desservait principalement les pensions de la région du boulevard Gambetta. C'était un lieu d'accent, d'odeur et de couleur, où de nobles imprécations s'élevaient au-dessus des escalopes, côtelettes, poireaux et yeux de poissons morts, parmi lesquels, par quelques miracles méditerranéens, d'énormes bottes d'œillets et de mimosa trouvaient toujours moyen de surgir inopinément. Ma mère tâtait une escalope, méditait sur l'âme d'un melon, rejetait avec mépris une pièce de bœuf dont le flop mou sur le marbre prenait un accent d'humiliation, pointait sa canne vers des salades que le maraîcher protégeait immédiatement de son corps avec un « je vous dis de ne pas toucher à la marchandise » désespéré, reniflait un brie, plongeait le doigt dans la crème d'un camembert et le goûtait. Elle avait, lorsqu'elle portait à son nez un fromage, un filet, un poisson, un art du suspense qui rendait les marchands blêmes d'exaspération. Et lorsque, repoussant d'un geste définitif l'article, elle s'éloignait enfin la tête haute, leurs interpellations, insultes, invectives et cris indignés reformaient autour de nous le plus vieux cœur de la Méditerranée. Je trouve que c'est un portrait extraordinaire, magnifique. C'était une femme de caractère.
On dirait bien.
Donc ce livre, qui est un chant d'amour à sa mère, s'appelle « La promesse de l'aube ». Il est écrit par Romain Gary et il est édité chez Folio.
Merci beaucoup, Anne. Voilà. Alors, il y a de l'ambiance, hein,
oui, au Café Flux. C'est assez difficile.
C'est la jeunesse. Alors, on a tout dit.
On a tout dit.
Je vous remercie de votre patience, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de faire de la lecture dans le bruit.
On a une ambiance, on a une ambiance.
Voilà, on a eu une ambiance, voilà, tout à fait.
J'espère que vous avez entendu quand même.
C'est vrai que vous avez entendu,
on a envie de lire, c'est le principal.
C'est le but.
Exactement, merci beaucoup, on a encore une fois bien voyagé. Je vous rappelle que Du vent dans les pages sera en podcast, donc sur le site de studiosef.fr. Mesdames, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous, merci chères auditrices et auditeurs, à très bientôt.